Bibin, le magazine qui explore, qui voyage, qui découvre. Suivez nos micros sur les chemins de traverse.
Je suis Patricia Scoader, je suis éleveur de moutons Landes de Bretagne sur la commune de Dinéol. Et j'élève 130 brebis Landes de Bretagne sur une ferme de 65 hectares. Et j'ai développé depuis quelque temps des plantations agroforestières sur la ferme.
Patrick Sastre-Quader mène la bergerie du Ménésum à Dinéol depuis 2011. Et sur ce beau terrain de collines verdoyantes, des moutons paissent depuis 1976. Bon, à cette époque, ils étaient élevés en bergerie, en conventionnel, avec de l'alimentation achetée par l'éleveur. Actuellement, les moutons sont bel et bien dans les prés et ils sont de préférence sous les arbres et les arbustes, très nombreux au bord des parcelles de Patrick ou même au milieu. Allons explorer ce domaine.
Donc, en fait, l'agroforesterie, ça existe déjà. Je n'ai rien inventé. Donc, on peut s'arrêter là.
J'ai une petite trentaine d'hectares qui sont ramassés, qui sont connectés à la bergerie. Et après, le reste, c'est disséminé sur l'ensemble de la commune, avec aussi une petite parcelle, enfin une parcelle conséquente quand même sur la commune de Saint-Nic, sur le Ménéum. Voilà, mais probablement pour la dernière année. Bah, disons qu'il y a une convention qui m'autorise à aller sur la lande. Ceci étant dit, avec les incendies et l'arrivée des loups, lorsque vous avez des parcelles sur lesquelles il y a plus de 2 mètres de hauteur de lande, c'est plus gérable, quoi. C'est-à-dire que ça peut brûler, d'une part, et d'autre part, si vous avez une prédation par les loups, arriver à avoir des moutons dans une lande au milieu des ajoncs qui font 2 mètres de haut, c'est pas possible, quoi.
Ah oui, on peut pas voir s'ils sont morts, s'ils ont été attaqués.
Voilà, c'est ça. Donc je m'en suis ouvert directement au président du département, qui a semblé comprendre ma situation, mais comme rien n'a été fait, pour moi, les actes parlent d'eux-mêmes.
Et est-ce que ça va suffire sans cette parcelle parce que c'est une ferme qui est quand même autonome, enfin, il faut aussi préciser que c'est autonome, c'est en bio, etc.
Oui, ça va suffire, parce qu'en fait, moi, initialement, j'avais 200 brebis, j'en ai plus que 130. J'ai volontairement réduit la taille de mon cheptel pour faire en sorte que je puisse passer sans les parcelles du Ménésum.
Et donc, c'est des brebis pour la viande, hein, aussi, on n'a pas précisé.
Voilà, oui, c'est ça. Oui, c'est des brebis qui sont élevées pour la viande et aussi un peu pour la laine. Alors, l'agroforesterie, c'est une façon de conjuguer les arbres avec les activités agricoles, que ce soit des activités de culture ou des activités d'élevage. Et donc, finalement, on réinvente rien, enfin, on n'invente rien, puisque l'agroforesterie, notamment en Bretagne et en Normandie, c'est toujours développé, que ce soit les arbres en talus, avec le paysage bocager, soit carrément avec les prés-vergers, notamment avec les pommiers à cidre qui cohabitent dans les pâtures. Bon, peut-être plus en Normandie qu'ici en Finistère, mais voilà, moi j'ai des souvenirs effectivement en Normandie de prés-vergers comme ça, quoi.
Et là, quand on dit que vous êtes autonome, ça veut dire que les moutons, ils sont à l'herbe toute l'année. Qu'est-ce que ça veut dire?
Oui, c'est ça. La particularité de la race Landes de Bretagne, c'est que je peux les élever quasi exclusivement à l'herbe, qu'elles soient sur pied ou qu'elles soient en sous forme de foin. En sachant que été comme hiver, les moutons sont dehors. L'hiver, je les mets dehors la journée et je les rentre la nuit parce que c'est le moment où il y a les agnelages, donc ça évite aussi aux agneaux de se faire manger par les renards. Et donc nécessairement, une fois que je sors les brebis, bah, elles mangent l'herbe qui est autour de la bergerie.
Et donc ça tourne d'un pré à l'autre.
Voilà, c'est ça. C'est ça.
Et ça, c'est une exploitation qui est ancienne, qui n'était pas en bio spécialement avant, mais qui était quand même bien dotée en termes d'agroforesterie, justement. C'était comment?
Alors, il y a toujours eu dans notre secteur ici, qui est assez vallonné, des arbres autour des parcelles. Donc, clairement, il ne faut pas l'oublier, hein, parce qu'on imagine toujours qu'on réinvente plein de choses, mais en fait, voilà, faut pas trop forcir le trait. Et puis, il ne faut pas non plus faire un constat absolument négatif sur les pratiques agricoles à l'encontre des haies. Certes, il y a des gens qui détruisent des talus, mais bon, qui généralement ont l'obligation de refaire des talus et de replanter des haies derrière. Des fois, ça peut s'entendre, hein, quand il y a des toutes petites parcelles qui sont mal embringuées. Voilà, faut comprendre aussi qu'en agriculture, bah, l'agriculture évolue et qu'on a des petites parcelles dans le journal, donc autour de 5000 m2, bon, bah, pour la pratique agricole, c'est quand même pas le top. Et puis il y a aussi des programmes avec Braise Bocage qui permettent aussi de mettre en place des talus, voire même carrément des haies sans talus. Donc il y a quand même... il y a quand même des choses qui se font, et puis tout l'héritage, enfin là vous voyez tout autour de vous, bon, même à la radio si on ne le voit pas, chaque parcelle est déjà entourée d'arbres, et là moi j'y suis pour rien, hein. C'était là déjà depuis mon avis des générations et des générations, donc voilà, faut pas noircir non plus la pratique agricole par rapport aux arbres.
Et alors, qu'est-ce qui a évolué dans l'agroforesterie ? J'imagine que malgré tout, on a amélioré les connaissances, on fait différemment quand même.
Oui, alors ce qui a été amélioré, moi je trouve, c'est la valorisation des essences forestières en fonction de différents usages. Même si parfois, au niveau des techniciens, on n'a pas tous les conseils qu'on aimerait avoir, notamment sur la gestion des arbres en trogne.
Ah, c'est quoi ça ?
Voilà. Alors la trogne, c'est, on appelle ça aussi la forme têtard, c'est-à-dire c'est une façon de gérer la croissance des arbres pour faire en sorte que à 1m50 ou 2m ou à 2m50, on étête l'arbre et à partir de ce tronc, on va dire, eh ben il y a des branches qui poussent. Après on en fait une gestion. Alors par exemple moi c'est quelque chose que je vais faire sur les espèces de frênes et de mûriers qui serviront d'alimentation aux animaux. Voilà. Donc là pour le coup on a un arbre fourrager. Donc tous les ans ou tous les 2 ans ou tous les 3 ans, en fonction de la vitalité de l'arbre, en fonction de sa capacité à produire de rameaux, je couperai effectivement pour nourrir les arbres.
Et des espèces qui supportent bien la trogne, parce que j'imagine que tous les arbres ne peuvent pas se prêter à ça.
Ah, il y a beaucoup d'arbres quand même qui supportent la trogne. Je veux dire, hormis un certain nombre d'arbres à noyaux, certains arbres fruitiers qui peuvent avoir un peu de difficultés. Mais bon, après, quand on regarde bien, quand on regarde des pommiers, bon, bah, généralement, voilà, on leur tombe sur le râble, comme on dit, et on taille. Alors, on taille pas tout en même temps. Mais il y a quand même des tailles qui se font, qui rabattent les branches sur le tronc, quoi.
Oui, et qu'est-ce qui revient encore d'intéressant ou qui vient ?
Bah, je dirais que la trunks, pour moi, en termes de gestion des arbres, je suis désolé de revenir là-dessus, mais pour moi, c'est vraiment très important. Parce que lorsque les syndicats de bassin versant nous proposent des arbres à auget, moi au départ...
Ça veut dire à tronc haut, c'est ça ?
Oui, c'est ça, à des ports très hauts qui peuvent aller à 15 mètres, 20 mètres, 30
avec un houppier, ouais, vachement...
Moi au départ, j'ai failli pas mettre en place un projet agroforestier parce que je me disais, mais comment je vais pouvoir gérer des arbres qui montent aussi haut, en sachant qu'en plus on m'oblige à mettre l'arbre sur un talus, donc pouvoir accéder au houppier c'est quand même assez rock'n'roll, avec le risque aussi que c'est que l'arbre sur talus il cabane, parce que bah, il n'a pas une assise au sol suffisamment conséquente, parce que finalement les talus ils sont pas très larges, hein, et fort heureusement d'ailleurs. Et voilà, donc et c'est vrai que le jour où j'ai compris qu'on pouvait aussi gérer en trogne les arbres, ça m'a aussi détendu en me disant bah ça sera quand même plus facile à gérer en ayant une échelle ou une scie perche à 2 mètres ou 2 mètres 50 plutôt que d'intervenir à 15 mètres ou 20 mètres, quoi.
Donc c'est de la trogne fourragère plutôt que pour le bois chauffage, quoi, c'est ça, hein ?
Ouais, bah après ça peut être utilisé après en bois de chauffe sur d'autres espèces fourragères, enfin sur d'autres espèces d'arbres, en faisant des fagots, pourquoi pas utiliser pour faire du pain dans un four à bois, par exemple, ou des pizzas. Ça fait partie aussi du projet à moyen terme sur la ferme. Et puis après, effectivement, lorsque la trogne, on peut très bien couper le bois, au lieu de le faire tous les 2 ou 3 ans, on peut le faire tous les 5 ans ou tous les 10 ans. Et là, effectivement, on a un bois qui est beaucoup plus, avec une section beaucoup plus importante, qui peut être valorisé pour du bois de chauffe, par exemple. Ou même, certains l'utilisent pour valoriser pour du bois en construction. Enfin bon, après, c'est du bois en construction, c'est du bois léger, hein. Ça se fait notamment dans des pays comme le Maroc, où là, le bois, il est utilisé pour faire des petites pannes Voilà, là, nous, on a la religion du bois carré, du bois rectangle, du bois bien plat. Voilà, c'est aussi une autre façon de concevoir la construction.
Sur mon projet que j'ai fait là, j'ai fait de la plantation en intraparcellaire. Et
voilà. Et là, dans ce pré où on est, vous avez planté des arbres, donc cette fois dans le pré, pas en haie. Alors, qu'est-ce que c'est? Pourquoi faire?
Alors là, j'ai planté 102 arbres exactement en intraparcellaire. Donc dans ces 102 arbres, il y a effectivement du frêne, du mûrier pour faire de la feuille pour les animaux d'élevage. Voilà. Il y a aussi du chêne vert qui fait du gland aussi pour les animaux d'élevage.
Mais tout ça, les moutons mangent tout ça, quoi.
Oui.
Enfin, et il faut cultiver en plus d'autres choses, enfin, je sais pas, du trèfle ou quoi, ou non?
Ah bah ça, après, moi, j'ai ce que j'appelle le pâturage à l'horizontale, où effectivement, il y a de l'herbe classique, il y a du trèfle classique, dont les animaux se régalent aussi, quoi.
Mais il n'y a pas besoin de faire du maïs, ou, enfin, comme pour des bovins ou,
Non, moi, par rapport à mon parcours technique avec le Land de Bretagne, j'ai pas besoin d'avoir de maïs ou d'amener du blé en complément, etc., quoi. L'herbe suffit largement, encore faut-il être patient pour que la viande puisse, enfin que les agneaux puissent croître avec le temps, quoi. Voilà.
Herbe et arbre, donc. Alors quoi d'autre?
Voilà. Après, j'ai mis aussi des essences visant à donner du fruit, mais là pour les humains, mais aussi pourquoi pas pour les animaux, qu'ils soient sauvages ou domestiques.
Ouais, quoi?
Bah par exemple, il y a du pommier, du poirier, du cerisier, de l'abricotier. Voilà, l'idée c'est aussi de faire un petit peu des essais sur certaines espèces.
Abricotier, oui, ici.
Oui, c'est un peu rock'n'roll, mais bon, si de temps en temps on arrive à voir quelques abricots, ça peut être sympa.
Oui, puis ça se réchauffe, il y aura des abricots.
Voilà, c'est ça. J'ai un petit projet vigne aussi d'ici quelques temps. Mais bon, voilà, je n'y suis pas encore.
Ça non, sera... mais c'est intéressant, c'est quoi le projet global d'agroforesterie pour cette exploitation-là?
Moi, c'est un projet qui vise déjà pas mal à l'autosubsistance. Dans un premier temps, et puis effectivement mettre à disposition, donc à la vente, des entre guillemets des surplus, et puis pourquoi pas aussi faire du jus de pomme, des choses comme ça, quoi. Voilà.
Confiture.
Voilà, toutes sortes de choses. Voilà, bon, en sachant après que bon, je n'ai que deux bras et deux jambes, donc voilà, je ferai ça en fonction des opportunités qui me seront offertes. Et en sachant aussi qu'effectivement, ayant baissé la taille de mon troupeau pour prévenir les prédations des loups, ça permettra aussi de compenser à moyen terme la baisse de chiffre d'affaires.
Et là, c'est la seule parcelle où il y a des arbres en intraparcellaire, ou est-ce qu'il y en aura d'autres?
Non, il y a déjà une autre parcelle qui est de l'autre côté du vallon. Là, j'ai mis que des espèces fourragères pour les animaux. Et là, normalement, cet hiver, il y aura une autre parcelle qui sera aussi en intraparcellaire. Là, plutôt avec des fruits à coque.
Là, ils m'ont l'air très bien alignés. Est-ce que c'est fait exprès, je suppose, mais pourquoi?
Oui, donc on a pris l'option de faire effectivement des lignes d'arbres, des rangées d'arbres pour pouvoir mieux entretenir ensuite les parcelles, que ce soit au girobroyeur, que ce soit pourquoi pas faire de la fauche pour faire du foin, que ce soit pourquoi pas aussi faire de la culture si nécessaire, hein, pourquoi pas, tout à l'heure je vous parlais de faire du pain, bah pourquoi pas de céréales, de blé panifiable. Donc c'est ce que j'ai fait sur la parcelle qui est l'autre côté du vallon, là sur Ménesgouen, où j'ai fait sur une rangée, j'ai fait une rangée avec du blé panifiable pour récolter moissonner du blé panifiable, ouais, pour faire du pain.
Même quand il y a les arbres, on peut faire du blé en dessous?
Oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Oui, bah, c'est une pratique qui s'est faite déjà dans le sud de la France, dans l'Hérault, où là il y a une station expérimentale gérée par l'INRAE, où effectivement ils ont développé cette pratique-là, avec des résultats qui sont assez probants finalement.
Alors, je sais que les vaches, par exemple, souffrent beaucoup de la chaleur. Est-ce que c'est le cas des moutons? Est-ce que c'est aussi un autre intérêt, l'agroforesterie?
Alors, c'est clair que, de toute façon, que ce soit en intraparcellaire ou en tour de pré, ça apporte de l'ombre, ce qui n'est pas négligeable en période chaude. Mais ça apporte aussi de la protection au vent, de la protection aussi à la pluie quand vous avez des grandes bourrasques. C'est clair que l'intraparcellaire est encore plus intéressant. La grosse contrainte de l'intraparcellaire, bah, c'est la protection des arbres. Donc là, comme vous pouvez le constater, même si les auditeurs ne le voient pas, donc moi j'ai mis un gros gros piquet en bois enfoncé à près d'un mètre avec une protection plastique rigide pour que les animaux ne la mangent pas, parce qu'au départ j'avais fait avec des protections classiques vendues dans le commerce et je me suis aperçu que voilà, si les animaux ils voulaient éclater la protection pour aller manger du frêne qui est hyper appétant, la protection elle est détruite quoi.
Les animaux, c'est les moutons, hein, c'est pas les chevreuils.
Voilà. C'est ça. Oh oui, non, les chevreuils, c'est pas un problème. Non, c'est les moutons. Puis en plus, c'est très rigolo pour les moutons de se frotter la tête ou de se frotter les flancs contre un piquet. Donc si le piquet il tient pas, qu'on met un petit piquet qui est préconisé pour mettre sur les talus, c'est même pas la peine, quoi.
Mais après, quand les arbres seront plus grands, il faudra quand même veiller à ce qu'ils ne mangent pas l'écorce pour pas qu'il y ait une annulation ou je sais pas quoi des arbres.
Ouais, ça fait partie du challenge de voir que d'ici une quinzaine d'années, éventuellement tester sur certains arbres de retirer les protections. Voilà, ça fait partie de l'histoire.
Il y aura d'autres parcelles qui seront comme ça plantées.
Là, ça me fera 3 parcelles. Pour moi, je trouve que ça sera déjà pas mal. Parce que mon objectif aussi, en termes de diversification, c'est avoir un petit peu de bovin. Et donc là, le bovin, ça devient un peu plus rock'n'roll au niveau de la protection des cultures, des plantations d'arbres. Donc je vais laisser des parcelles sans rien, justement pour pouvoir mettre quelques bovins sans que ça pose problème, quoi.
Ça a du sens l'agroforesterie en élevage. Alors là, c'est malheureusement les volailles, c'est un peu compliqué avec la grippe aviaire. Mais est-ce que ça peut être intéressant? Je ne sais pas si vous avez la réponse.
Complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque vous avez des gens qui disent qu'ils font de la volaille plein air, si c'est pas associé avec de l'agroforesterie, c'est de la fumisterie. Les volailles, elles ont besoin d'avoir ce couvert pour sortir et pour s'éloigner du bâtiment. Et donc ceux qui font de la volaille bio ou pas bio, plein air, mais vous n'avez pas des arbres, en fait les volailles restent au pied du bâtiment. Elles cherchent éventuellement l'ombre en tournant autour du bâtiment, mais en fait elles ont besoin effectivement de ce couvert agroforestier. Et donc aujourd'hui vous avez des gens qui peuvent être accompagnés là-dessus, que ce soit par l'Association française d'agroforesterie et je crois même par la Chambre d'agriculture, donc qui accompagnent effectivement pour mettre des arbres sur les parcours des volailles. Et je dirais que dans une certaine mesure, s'il y a bien un type d'élevage qui se prête vraiment à 100% à l'agroforesterie, c'est bien la volaille.
Les cochons aussi, on peut faire ça en agroforesterie ?
Ah oui, bien sûr. Par exemple, là, moi, je mets en place du chêne vert. Les cochons se nourrissent des glands, les cochons se nourrissent des châtaignes. Donc, effectivement, oui, c'est aussi adapté sur les cochons. Par exemple, vous avez là d'où je viens, des Cévennes gardoises ou même dans le secteur du Pays Basque, où tous les cochons ils sont élevés en sous-bois parce qu'il y a plein à manger, quoi.
La fameuse glandée d'autrefois.
Voilà, c'est ça. Donc là, c'est pareil, on n'invente rien. On n'invente rien et ça fait des animaux qui pètent la forme et qui ont un environnement pour grandir qui est vraiment au top. Et donc, oui, là, on n'invente rien. Là, avec ces 3 parcelles, j'avais arrivé à 7 hectares de plantations intraparcellaires. Donc ça fait quand même un paquet. Je vais arriver à près de 600 arbres en intraparcellaire. Voilà, donc,
plus le linéaire, il y a combien en kilomètres?
Je sais pas. Oui, il faut pas aller en kilomètres là. Mais je saurais pas dire. Franchement, il y a énormément. Il y a énormément, ouais.
Et c'est intéressant aussi ce linéaire, enfin, ça s'exploite éventuellement, pour, même en fourrage.
Ah oui, soit en fourrage, c'est vrai que moi les brebis, dès qu'elles entendent le bruit de la tronçonneuse, elles accourent parce qu'elles savent que là en ce moment on peut commencer à entretenir les saules. Et là les saules elles s'en régalent, quoi. Donc là j'ai généralement j'ai un attroupement. Et donc effectivement là les feuilles de saules elles sont mangées très rapidement, quoi. Ouais.
Donc ça, c'est un programme qui est quand même aidé, voilà, c'est ça, enfin, c'est le programme d'agroforesterie.
Alors, il y a des aides du département et du bassin versant via l'Europe pour des systèmes, je veux dire, classiques, entre guillemets. Là, moi, je suis sur des systèmes, notamment avec les mûriers blancs qui ne sont pas reconnus, en quelque sorte, par les instances pensantes. C'est pareil au niveau du frêne. Le frêne commun, lui, il est impacté par une maladie. Donc, je vais plutôt me rabattre sur du frêne à fleurs. Et là, par contre, on n'a pas d'aide. Voilà. Donc, moi, j'anticipe le réchauffement climatique et les maladies, mais les programmes institutionnels, eux, ne l'anticipent pas. Voilà. Donc, en fait, sur une partie de ces programmes, je travaille sur l'autofinancement.
Oui, c'est aussi un aspect qu'on n'a pas encore vraiment abordé. L'agroforesterie, c'est aussi un outil de lutte contre le changement climatique et aussi pour préserver la biodiversité, c'est ça?
Alors, c'est clairement en termes de biodiversité, c'est très intéressant, notamment lorsqu'on travaille avec de la trogne. Parce que la trogne en tant que telle fait en sorte que vous avez des creux qui se font dans l'arbre et qui donc participent effectivement à offrir des habitats pour un certain nombre d'espèces, principalement animales, mais pourquoi pas végétales. Personnellement, je suis un petit peu critique à l'égard de l'agroforesterie pour lutter contre le réchauffement climatique, parce que si on continue d'avoir des émissions de gaz à effet de serre plus,
c'est plus pour s'adapter en fait, voilà. C'est pas vraiment pour lutter.
Disons que ça permet de s'adapter si vous avez des animaux qui sont à l'ombre, mais après pour compenser vraiment les émanations carbone, voilà, je pense qu'il faut arrêter de nous faire prendre des alouettes pour des faisans. Ça fait partie de la com institutionnelle de dire qu'on va planter des arbres pour faire changer un petit peu le climat, mais bon voilà, concrètement
En matière de puits de carbone, c'est pas si efficace que ça.
En puits de carbone, vous avez les pâtures qui sont là, mais bon, les pâtures, elles sont déjà existantes, donc elles peuvent pas faire plus que ce qu'elles font déjà. Et puis avec une politique aujourd'hui qui vise à réduire l'élevage, que ce soit par les loups, que ce soit en payant mal le lait ou des choses comme ça, il y a de plus en plus de pâtures qui vont être transformées en culture, donc les puits de carbone vont de moins en moins exister. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, les arbres, c'est un petit peu une caution fort sympathique pour dire que les autorités publiques font quelque chose. Ça permet aussi des entreprises de payer la compensation carbone, de redorer leur image avec du greenwashing. Mais bon, franchement, je pense qu'on nous amuse avec un petit hochet sympathique.
Mais pour vous, sur votre exploitation et votre élevage de moutons, c'est de toute façon aussi, ça fait partie du modèle économique, on peut le dire, quoi.
Ah oui, carrément. Oui. Moi, c'est un choix qui sort complètement des programmes institutionnels. Voilà, moi, j'avais envie vraiment de faire ça depuis quelques années, mais comme jusque-là, j'étais pas propriétaire d'un certain nombre de parcelles, c'est vrai que je me suis dit que j'allais pas planter des arbres chez les autres, parce que c'est vrai que c'est des paris qui se font sur 20 ans ou 30 ans. Bon, même si je suis proche de la retraite, au moins j'aurai la chance de voir les arbres chez moi développer, sans me dire que les parcelles partent en location chez quelqu'un qui trouvera ça nul et qui les coupera, quoi. Voilà. Après, ce que je peux comprendre, il y a peut-être des gens qui sont plus intéressés par les cultures, et c'est vrai que parfois, quand on a un esprit un petit peu figé sur des pratiques, les arbres, c'est embêtant, mais bon, voilà, c'est une façon de voir les choses.
Et pour vous, pour vous l'éleveur, vous diriez c'est plus intéressant, mais c'est plus fatigant. Enfin, qu'est-ce que vous diriez sur la façon dont ça façonne votre travail, cette agroforesterie et puis cette polyculture élevage?
Clairement, ça oblige à penser à plusieurs choses à la fois. Donc, c'est peut-être là où certains souhaitent la simplicité en faisant de la monoculture. Mais bon, dans le même temps, c'est vrai que l'agroforesterie peut arriver dans un cycle où les arbres sont en dormance, donc il n'y a pas spécialement trop de travail dans les champs, il n'y a peut-être pas trop de travail non plus au niveau de l'élevage, donc ça permet aussi un petit peu de niveler la charge de travail. Après, bon, avoir un moment de repos aussi en agriculture et en élevage, c'est pas mal non plus.
Et on dit que c'est le machinisme qui a tué l'agroforesterie, qu'est-ce que vous en pensez ?
Je ne partage pas ce point de vue. C'est pas le machinisme, c'est une vue technocratique et techniciste qui a visé à dire qu'il fallait détruire toutes les haies pour effectivement et les talus pour faire des cultures. Moi, sur mes parcelles ici, je fonctionne avec des tracteurs, avec des barres de coupe, avec des gyrobroyeurs, et pourtant j'ai planté des arbres.
Ouais, mais ils sont petits.
Non, parce que par exemple, actuellement, vous avez des programmes d'agroforesterie dans la Beauce qui sont en train de se mettre en place, où ils sont en train de replanter des arbres. Donc, le problème, c'est pas le machinisme en tant que tel, c'est une vision uniformiste et standardisée qui vise à dire voilà, qu'il faut qu'il y ait qu'une seule espèce qui pousse. Je veux dire, aujourd'hui en agriculture, on se rend compte qu'on peut faire des cultures associées, notamment céréales, légumineuses, etc. Aujourd'hui, vous avez encore des champs qui sont là où il faut faire absolument strictement soit que de la céréale, soit que de la légumineuse. C'est plus un regard qu'on pose sur notre travail, avec des conseils soi-disant éclairés de certains ingénieurs agronomes qui nous ont mis dans une espèce de voie sans issue, relayée par les COP, etc. et compagnie. Après, il y a toujours eu des pratiques d'agriculteurs et d'éleveurs qui ont mixé un petit peu tout ça et qui n'ont pas perdu pied avec une certaine forme de réalité.
Bah, la polyculture élevage, c'est exactement ce que vous vous apprêtez à pratiquer, en fait, ce que vous faites, en fait.
C'est ça.
Et pour vous, c'est l'avenir de l'agriculture,
hein? Ah, moi, je pense, oui. Oui, je pense qu'il faut revenir à la polyculture élevage, qui est quand même malgré tout toujours pratiquée par un certain nombre de collègues. Hein. Je veux dire, tous les collègues qui font de la vache laitière, qui font du foin, qui font des céréales pour nourrir ou pas leurs troupeaux, qui font du maïs pour nourrir ou pas leurs troupeaux, ils sont dans la logique polyculture élevage. Hein. Voilà, je pense que là aussi, il ne faut pas non plus imaginer que l'agriculture demain n'a pas d'assise sur ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, après c'est juste retrouver retrouver un petit peu, pourquoi pas, la place des arbres en intra-parcellaire, parce que voilà, quand on s'aperçoit qu'il y a un bel arbre au milieu d'un champ en plein été, bah vous avez les vaches qui sont en dessous, quoi. Tout simplement.
La bergerie du Ménézom est située à Dinéol dans le Finistère. Sur le site internet de la ferme, vous pouvez passer commande des produits bio en vente directe.